fort et reclus.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Fort et Reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 MHz sur Radio Plaisance en Périgord noir.
Bonjour, aujourd'hui 24 mars. Depuis hier, de la merde radioactive se balade sur nos têtes. Aujourd'hui, on a appris qu'au Japon, les trois premières victimes de l'accident de Fukushima sont hospitalisées et vont crever bientôt. Coïncidence tout ça. Informez-vous, allez regarder au-delà des mensonges officiels. On reparle de blouse blanche après un petit peu de musique.
Le beau-frère de la sœur du voisin, gendarme, est mort il y a quelques jours et mort enfin sans larmes. Des larmes, il n'avait plus de quoi. Il n'avait même plus de poids, plus de souffle dans la poitrine. Il était dans son lit gisant, il avait moins de 40 ans, il travaillait dans une usine, de celle dont on ne dit rien, où il n'y a jamais de pépins, jamais de mort ni de malade. Ils n'y travaillent pas longtemps, ils ne savent jamais pourtant où vont finir leurs camarades. Allons. Mais qu'est-ce que tu penses? Ce ne sont que des coïncidences. Ces choses-là n'arrivent pas, pas chez nous en tout cas. La femme de ménage de l'école de sciences a passé la visite médicale en confiance. On lui a dit il faut rester à l'hôpital vous reposer. Elle a répondu j'ai mon ouvrage balayé autour du machin. Ils appellent ça, je crois bien, une pile dans une cage. Ils ont analysé son sang, ils l'ont gardé, ça fait longtemps. Il y en a une autre qui balaye, à qui bien sûr on n'a rien dit. À l'hôpital il y a des lits, elle ne vivra sûrement pas vieille. Allons, mais qu'est-ce que tu penses? Ce ne sont que des coïncidences. Ces choses-là n'arrivent pas, pas chez nous en tout cas. La sage-femme qui voit naître des enfants difformes, en voyant de plus en plus avec le temps, s'informe. On lui dit que c'est le tabac, c'est la pilule ou le calva, mais certainement pas l'usine. Tous les pères vont pourtant, dans des bottes et casquettes blancs, gagner leurs 3 sous de débine. Il faut tout ça pour compenser ce que vous pouvez gaspiller d'essence dans vos mobilettes. Et quand vous marcherez à pied, vous pourrez toujours regarder passer les avions sur vos têtes. Allons, mais qu'est-ce que tu penses? Ce ne sont que des coïncidences. Ces choses-là n'arrivent pas, pas chez nous en tout cas. Et moi qui vous parle avec mon micro électrique, j'ai bonne mine à vous les dérouler, mes idées paniquent. Je n'aime pas beaucoup le froid, je ne me chauffe pas au bois, et je ne boude pas l'essence. Mais j'ai au ventre une grande peur, qu'on se retrouve un jour sans fleurs, sans enfants et sans espérance. On se retrouve un jour sans nous, avec personne au bord du trou, rien que des armes et puis personne. Vous dites qu'on s'en passera de toutes ces choses qu'on a, qui ne valent pas, qu'on abandonne. Je n'y peux rien, toujours j'y pense, je ne crois pas aux coïncidences. Ces choses-là arrivent bien, de rien. Mais surtout, gardez vos vélos, on ira voir au bord de l'eau, si jamais la mer veut redevenir.
Merde, elle a un malaise.
veux pas voir de toubib.
Ça, c'est moi qui décide.
Je veux pas voir de toubib, je te dis.
Bah, va te faire cuire un œuf.
J'en ai marre des toubibs, ça sert à rien, les toubibs. Ils vous tripotent et puis ciao. Démerdez-vous, les filles. Remettez votre culotte. Allez, crevez plus loin.
Il fait très beau, là, donc c'est pas trop un temps à rester entre quatre murs blancs et de croiser non plus des blouses blanches, comme on vient de l'entendre, c'est un extrait du film Merci la vie. Donc, nous avons Haroun par téléphone.
Bonsoir.
Bonsoir, Haroun.
Bonsoir, Alex. Bonsoir, Romain.
Bonsoir.
Donc, de Reims. N'est-ce pas? On avait fait déjà une émission ensemble sur la société validiste, etc. Donc là, ça va être, oui, les blouses blanches. Donc, qui dit blouses blanches, évidemment, ce sont les gens qui sont dans les hôpitaux et qui sont, soi-disant, du personnel soignant. Alors, s'ils soignent pas certaines choses, peut-être qu'ils prennent soin, ou sinon ils prennent pas soin du tout, et donc on va pas parler de torture, parce que sinon ça va faire un débat de 3 jours, mais on va parler de maltraitance hospitalière, et donc voilà, donc Haroun, on t'écoute aussi, et voilà.
Ok, donc je fais quoi, je relate un peu ce que j'ai pu vivre ou comment?
Ouais, parce que toi en fait t'as connu les hôpitaux assez jeune, je pense.
Voilà, en fait moi je suis né avec un handicap congénital, donc je suis né avec une jambe plus courte que l'autre, donc très tôt j'ai baigné dans l'univers hospitalier, quoi. Et en fait si tu veux le truc, déjà la maltraitance, elle se situe déjà dès le début, entre le rapport que peut avoir l'institution hospitalière et les parents et mes parents, quoi. C'est-à-dire que dès que mes parents se sont rendus compte de l'inégalité de la longueur de mes jambes, ils sont allés voir le service pédiatrique. Alors c'était à la Salpêtrière, si je dis pas de bêtises, et donc, en gros, ils sont vraiment, enfin ma mère s'est vraiment ramassé un truc d'une force, quoi. La nénette qu'elle a eue en face d'elle, en fait, a sous-entendu que si j'avais une inégalité de longueur, c'était pas qu'il ne l'avait pas constaté dès le début, c'est que en fait elle soupçonnait que ma mère m'avait fait chuter.
Ah oui, carrément.
Oui, c'est comme ça que, si tu veux, le truc a commencé, quoi. Donc tu vois, pour une aînée de 20 ans et qui a son premier gosse, déjà tu te prends, elle s'est quand même pris ça en pleine poire, quoi.
D'accord.
Donc ça peut commencer, voilà, quoi. Je sais pas, moi, après pour les autres, mais ça peut commencer quand même très tôt, et déjà ça met les parents dans, ça peut mettre les parents dans le jus. En tout cas les miens, dès le début, ils ont été confrontés à ça.
Parce que justement, quand on arrive comme ça à l'hôpital, que ce soit pour ton enfant, pour tes parents, pour tes amis, pour ce que tu veux par rapport à l'entourage ou aux patients, tout ça, c'est l'énorme culpabilité qu'à chaque fois on te met, en fait. T'es face un peu à ta culpabilité. Enfin, on te culpabilise souvent.
Ben oui, et puis c'est clair que du côté de mon père, quoi, il y avait aussi ce côté un peu malédiction, quoi. Oui. C'est-à-dire que là aussi, quoi, il s'est rajouté un truc hérité, tu vois, des structures sociales, quoi, des structures mentales de la société. C'est-à-dire que le handicap est forcément synonyme de malheur, et le fait que la science soit parvenue à médicaliser tout ça n'a absolument rien changé en ces croyances là, quoi, tu vois. C'est on veut nous faire croire que la science maîtrise tous les processus de la vie, D'ailleurs, voilà quoi, ça c'est ça Foucault l'a très bien montré, hein, dès le 18e siècle, la science se surimpose à la religion, mais en fait, elle prend la place. Donc en fait, elle prend aussi elle prend aussi une bonne partie des croyances qui viennent de la religion, quoi.
Et tout à fait, parce que pour qu'il te guérisse et tout, faut que tu aies une confiance aveugle, même si ça fait mal, même si on te maltraite par mépris, par toutes ces choses-là, on continue quand même à te soigner, donc faut que tu crois en la guérison, faut que tu crois à tout ce qu'ils te disent, faut que tu acceptes, que tu obéisses à chaque fois, même si ça peut être très très violent.
Ben tout à fait, c'est-à-dire que en fait l'hôpital se crée avec l'hôpital tel qu'on le connaît se crée avec les structures qui viennent de des hôpitaux militaires et des hôpitaux maritimes et avec ça est lié tout ce qui est l'imposition d'un règlement et d'une discipline, quoi. Donc en fait, on évite d'avoir des coûts humains trop importants suite aux guerres, mais si on veut des coûts humains moins importants, eh ben il faut discipliner la médecine, il faut discipliner la société, il faut tout ça c'est vraiment hérité aussi de l'hôpital militaire, quoi. C'est quand même bien ça dont il faut tenir compte, quoi.
C'est pour ça que c'est le serment d'Hippocrate plutôt qu'Hippocrate, parce que justement ça doit venir de l'armée aussi, ça c'est un peu le silence et de pas dire justement ce qui se passe vraiment, dans quel cas la personne est, ou tu vois, ou de divulguer des informations sur toi-même à tes proches pour que ce soit tes proches qui te disent le diagnostic que eux pensent, enfin tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est ça va être votre mère a un cancer, mais moi je vais pas lui dire, mais allez-y, quoi, dites-lui, quoi, à elle, quoi.
Ouais, tout à fait, hein, c'est vraiment ça, hein. Et encore ça c'est vraiment quand l'entourage peut être proche, hein.
Oui.
Parce que voilà, quoi, pour les personnes qui se trouvent à des centaines, enfin, et pour les gamins, enfin moi je de par mon expérience, moi j'ai vu j'ai rencontré tout plein de gamins qui venaient de l'ancienne Afrique coloniale, des anciens pays colonisés, eux ils se trouvent à des milliers et des milliers de kilomètres, les familles sont pas informées, quoi, tu vois, je pense pas que les médecins informent ou les services informent de par eux-mêmes les familles, quoi, tu vois, c'était vraiment pas, enfin moi j'ai jamais eu ce sentiment-là que les médecins informaient de par leur propre chef ma famille, quoi. Effectivement, lorsque mes parents venaient, moi je suis auvergnat, hein, j'ai été hospitalisé à Paris, donc effectivement lorsque mes parents venaient à l'hôpital, enfin bon, après, je dois apporter des nuances parce que moi, je suis plus souvent resté en centre de rééducation qu'en hosto, hein, étant donné que voilà, quoi, c'est un truc orthopédique. C'est surtout de la kiné que j'ai fait, bon, en étant à Paris et tout ça. Mais lorsque mes parents venaient, oui, là, il y avait un échange. Mais mis à part ça, que dalle, quoi. Hein. Donc alors l'opacité se fait déjà autour du malade et autour des familles, voilà, quoi, suivant les cas, quoi. C'est vraiment toujours un truc de cas par cas de toute façon, quoi. C'est-à-dire que si la famille elle a des capacités de résister face à l'institution, effectivement la violence elle va être moindre, ou alors elle peut être exacerbée aussi, quoi.
Oui, c'est ça. Et justement, pour parler de maltraitance, il y a tout ça, il y a quand on est patient, qu'on devient transparent parce qu'on devient une pathologie ou des choses comme ça, et qu'on est complètement déshumanisé, dépersonnalisé, il y a plus d'humanité, en fait, dans ces hôpitaux-là, et voilà, quoi. Mais après, ouais, je voulais te dire, toi, t'es, t'es resté beaucoup en centre de rééducation, on en parlera après. Mais après, toi, quand t'étais adolescent, t'étais encore hospitalisé souvent, non?
Oui, moi j'ai été en fait, j'ai eu en gros deux grosses phases d'hospitalisation, quoi. J'ai eu une grosse phase d'hospitalisation pendant que j'étais en école primaire. Après, j'ai eu une petite pause de 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça, enfin vraiment assez bref, quoi, d'un an ou deux. Ouais. Et ensuite, j'étais hospitalisé pendant tout mon collège et le début du lycée. Bon, avec des périodes d'hospitalisation assez longues qui allaient de 8 mois à 1 an et demi, hein. J'ai même eu droit à 1 an et demi à 18 mois d'hospitalisation, quoi, parce qu'il y a eu des soucis. Donc j'ai quasiment passé la moitié de mon enfance et de mon adolescence en milieu hospitalier, quoi.
Donc déjà, moi je pense que le milieu hospitalier est assez violent, mais t'as été victime de violences de part des autres enfants ou adolescents hospitalisés aussi, ou tout va bien dans le meilleur des mondes, Aaron?
Tu veux dire que l'image du gentil handicapé, innocent comme la colombe qui tête sa mère existe?
Non, c'est ça, ouais. Non, mais est-ce que cette situation, pour être vraiment précise, n'est-ce pas, est-ce que cette situation-là d'être dans un endroit comme ça, clos, en mélangeant diverses pathologies et divers individus, enfin je sais pas, où la violence que tu subis par les blouses blanches justement te fait pas devenir violent aussi au bout d'un moment?
C'est clair que tu deviens à un moment tu deviens acteur de la violence, quoi. Enfin je veux dire, t'es gamin, quoi. Enfin je veux dire, il suffit ne serait-ce que de voir comment ça se passe dans une cour de récré, quoi. Je veux dire, t'es gamin, t'as de l'énergie à dégager, quoi. Tu vois, t'as quand même et là déjà je parle d'une institution où le gamin après il sort de chez lui, il rentre chez lui, t'as de l'énergie à dégager, t'as tout un esprit de compétition qui est là. Et pourquoi ce truc là pouf, dès qu'on franchit le seuil de l'hôpital, il disparaîtrait? Ben non, c'est pas possible. Et d'autant plus que en milieu hospitalier, tu es enfermé.
Ouais, c'est
que tu te prends aussi bien le personnel que toi en tant qu'hospitalisé, tu te prends quand même, tu te fais bombarder de souffrance, quoi, tu vois, tu te fais bombarder de douleurs, de souffrance. Bon, voilà. Après, voilà, quand t'es gamin, je veux dire, les choses, tu les prends quand même de manière, tu relativises forcément, quoi, tu vois. Tu te fais quand même assez vite à une situation, ça, je veux dire, c'est quand même, c'est quand même ça la force des gamins par rapport aux adultes quand ils sont en hosto, quoi, tu vois.
Voilà, parce que moi, j'ai connu, mais en tant qu'adulte, à 22 ans, et c'est vrai que c'est ça fait plus un choc, peut-être, je sais pas, je t'avoue, je peux pas.
Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les choses, la tension, moi, je l'ai surtout ressenti lorsque j'étais ado, quoi.
Ouais.
Parce que quand t'es ado, évidemment, tu t'affirmes, hein, tu as envie de t'affirmer, tu as envie qu'on t'écoute, tu as des choses à dire, tu comprends mieux la manière dont les choses se passent, dont le monde évolue, quoi. Donc, quand tu te heurtes à un mur, institutionnel, par rapport justement aux questions que tu peux avoir, par rapport à ta santé, par rapport à l'évolution de ta maladie ou de ton handicap, par rapport aux complications qu'il peut y avoir aussi pendant ton hospitalisation ou ta convalescence en centre de rééduque, quand t'as ce mur-là, que t'as pas de réponse, tu fais quoi? Tu accumules tout un truc, t'as pas de frustration, tout un tas de violences qui sont liées à la non-réponse. Donc, c'est simple, hein. Soit tu la retournes contre toi, la violence, soit tu la retournes contre les autres, hein. Je veux dire, tu peux pas, on n'est pas, moi je suis pas un bouddhiste, hein, voilà quoi. Donc, effectivement, il y a ça. Et puis il y a aussi l'histoire de chacun des gosses qui sont en hosto, quoi. Moi, je me souviens vraiment, avoir été acteur de violence. Moi, la dernière hospitalisation, mon dernier centre de rééducation, c'était simple. Heureusement que ma convalescence se terminait. Sinon, je me faisais virer du centre de rééducation, quoi.
Oui, parce que justement, t'étais un peu violent et voilà, quoi. Mais c'est vrai que comme ce sont des endroits fermés, t'es d'accord avec ça, Haroun?
Ah, tout à fait.
Donc,
tout à fait.
Forcément, ça engrange tout ça, ça c'est clair. Donc t'as les violences de ton propre corps, t'as les violences que tu peux subir pour des examens, pour des prises de sang, pour des machins, des trucs. Alors je sais, il y a pas assez de personnel dans les hôpitaux, ils sont débordés, ils sont machins et tout. Je suis d'accord, mais voilà, des fois, c'est encore plus violent par maladresse ou par maltraitance ordinaire, comme on dit. Et donc, évidemment, après, tu pètes un peu un câble. Donc voilà. Mais peut-être plus en centre de rééducation.
Moi, je...
Oui, non, mais c'est pas pour comparer.
Je peux pas tout mettre dans un même sac. Mais
ouais.
Si tu veux... ce qui se passe quand même, c'est que je te dis, j'ai été hospitalisé, j'étais gamin, j'étais ado. L'énorme différence qu'il y avait entre une structure hospitalière et un centre de rééducation, c'est que effectivement la structure hospitalière est vraiment murée, quoi. Tu peux pas sortir, quoi. Si tu sors, c'est la rue directement, c'est la vie urbaine, c'est tout ça. Tu vois, en centre de rééducation, moi, les centres de rééducation que j'ai connus, il y a quand même énormément d'espace. Enfin, énormément d'espace, tout dépend, hein, parce que moi, j'ai connu deux centres de rééducation. J'ai connu le centre de rééducation de Limeil-Brévannes, hein, et j'ai connu le CPR de Bullion, qui est devenu un hosto. Alors le centre de Limeil-Brévannes, hein, c'était un centre qui était en fait un ancien sanatorium, quoi. Donc il y avait une partie d'adultes et une partie d'enfants. Et là j'étais vraiment gamin, quoi. Donc ces trucs-là, je les ai pas tellement analysés. Par contre, effectivement, là où il y avait un truc, hein, qui était vraiment une contradiction, qui était criante, c'est que le centre de rééducation de Bullion était un centre qui se situait en bordure de forêt de Rambouillet, quoi, tu vois. Donc, au-delà du grillage, il y avait de la forêt, tu vois.
C'est ça, ouais.
Et ça, tu n'y avais pas accès, quoi. Ça, c'était niette, quoi.
Ouais.
Moi, j'ai fait le mur, hein, je veux dire.
Tu vois ça, c'est clair que...
Moi, j'ai fait le mur, à un moment, j'en pouvais plus, quoi. Hein. Le grillage a encore des traces, hein. D'ailleurs... Je suis allé récemment, j'ai exactement vu l'endroit où j'avais déboîté le grillage pour pouvoir sortir et pour pouvoir, bordel de merde, souffler un peu, quoi, tu vois.
De ça, bah. Ouais. On va juste écouter un peu de musique et puis après on continue, Haroun.
Ok, ça marche.
C'est vous? Vous avez apporté vos analyses?
Oui.
Voyons ça. Glucose 130, bien. Cholestérol, oui, c'est bien. Acide urique, urée, bien. Oui. Bien. Très bien. Vos analyses sont meilleures que les miennes. Voyons l'électrocardiogramme. Ah oui, c'est, disons, normal. Vous fumez beaucoup?
Un paquet par jour.
Ah, c'est trop. Et vous menez une vie très agitée. Si vous continuez comme ça, dans 3-4 ans, vous vous retrouverez dans une chaise roulante. Voyons les radios. Voilà. Oui, cette partie-là est claire, vous voyez? Il y a une petite tache, là, bon. Il faudra peut-être refaire une radio pour être sûr.
Et ces petites choses blanches, là?
Oh, ça, c'est rien, sur les veines. J'aimerais bien vous pratiquer une petite boutonnière. Simple curiosité médicale.
Grande?
Oh non. Où ça?
C'est une opération?
Juste pour voir.
Quand?
Ah, quand vous voudrez, quand vous aurez le temps. Demain, ça vous irait?
Demain, c'est tellement pressé.
Ces choses-là, vous savez, il vaut mieux les faire aussitôt que possible.
Qu'est-ce que j'ai?
C'est comme vous voudrez. Mais personnellement, je préférerais voir.
Ah, écoutez, Pierre, je suis plus un enfant. Alors, si j'ai quelque chose de sérieux, vous pouvez me le dire.
J'aime les malades comme vous. Vous avez un néoplasme.
Ah. Ah bon, bon, bon. Qu'est-ce que c'est?
C'est une prolifération des cellules. Ou si vous préférez, un cancer.
Comment?
Vous avez un cancer du foie.
Un cancer, moi?
Dans un état assez avancé. Mais aujourd'hui, vous savez, ces choses-là... Cigarette?
Forêt reclus à l'Elysée, dans le monde entier, sur Internet. www.radiopérille203.com et sur l'audioblog où vous pouvez écouter, télécharger et diffuser les émissions. audioblog.arteradio.com/forêt reclus à l'Elysée. Tout attaché et sans accent.
Donc voilà, c'était Parabellum avec Doc Bollocks. Et juste avant, on a entendu un extrait de film.
C'est Le fantôme de la liberté de Buñuel, un film des années 70.
Où on voit que, évidemment, l'annonce du diagnostic est très très difficile pour le médecin, beaucoup plus qu'à entendre par le patient, puisque c'est un éclat de rire, évidemment, par réaction à cette annonce-là et à cette maladresse-là, on va dire. Donc, voilà, ça, les annonces de diagnostic, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Mais là, on était sur les centres de rééducation. Et donc moi j'ai une petite expérience de ça, j'ai fait 6 semaines hein, moi, hein. Mais bon, je suis arrivée, je marchais pas super bien, mais je marchais et je suis ressortie, donc j'ai fait une poussée et donc après bah, j'étais en canne une semaine après et 2 semaines après j'étais en fauteuil. Et alors ce qui était bien dans ce centre de rééducation, c'est que bah, évidemment il fallait une autorisation de sortir pour sortir des murs. On retournait chez nous ben, le week-end. Et sinon, ben, y avait quelqu'un qui avait ramené de l'alcool. Et on n'a pas le droit de ramener de l'alcool dans un centre de rééducation, ni à l'hôpital d'ailleurs. Et donc, ce garçon-là avait donc un fauteuil roulant. Et ils lui ont supprimé son fauteuil pour être sûr qu'il ne sorte pas. Mais même 5 minutes, quoi. Fallait pas qu'il sorte du tout. Et après, donc lui, il avait des cannes, en fait, aussi pour remplacer le fauteuil, pour marcher un petit peu jusqu'à l'épicerie qui était un peu loin, quoi. Et donc lui, il essayait de faire le mur, mais c'était un peu compliqué. Et donc, eh ben, pour être sûr qu'il ne ressorte pas, ils lui ont plâtré les 2 jambes, comme si ils étaient sûrs qu'il n'allait pas avancer avec des cannes ou avec le fauteuil. Donc voilà, mais ça date de pas longtemps, hein, donc voilà. C'est pas mal aussi.
Du côté de Bordeaux, c'est ça ?
C'est ça. C'est ouais, la tour de Gassy, c'est à Bruges. Mais c'est pas en Belgique. Hein. C'est, on aurait bouffé des chocolats, sinon ça aurait été vachement bien. Vraiment. Et donc, où il y a Rune, toi, tes 2 centres de rééducation, donc.
Eh ben, écoute, c'est simple. Hein. Déjà, la violence, elle se caractérise par les méthodes qui sont déjà en usage. Hein. Par exemple, le truc que j'ai eu à subir lorsque j'étais gamin, j'avais ce qu'on appelle un fixateur externe. Donc en fait, on te plante des tiges dans l'os, donc à travers la chair. Hein. Bon, pour allonger la jambe, on te plante des tiges à travers. Enfin, je passe les détails, mais on te plante des tiges dans l'os. À travers la chair, tout ça c'est relié à un pas de vis, et en fait ça te permet d'allonger progressivement la jambe. Ou alors la jambe est allongée pendant l'opération, c'était plutôt ça que j'avais quand j'étais gamin. Et en fait, bah, j'avais eu une infection, quoi. Donc j'avais eu une infection, ce qui est tout à fait normal, quoi, puisque c'était des autoroutes à staphylocoque doré, ces tiges. Ce qui faisait que l'os était bouffé tout autour de la tige, quoi. Donc, la tige, elle bougeait. Elle était plus du tout tenue par l'os. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, hebdomadairement, il y avait la visite du médecin qui se déplaçait, donc, lui, du centre hospitalier de Paris.
Et toi, tu n'y allais pas. C'est lui qui se déplaçait. C'est pas toi qui devais y aller.
Non, c'est lui qui se déplaçait.
D'accord.
Donc il allait voir les patients, les malades, les hospitalisés, les handicapés, dont son service avait la charge. Et là, ça faisait un moment que ça courait. Ils ont essayé d'arrêter le truc. Bon, ça n'a pas marché. Et finalement, ils ont décidé de m'enlever la tige, quoi.
D'accord.
Mais ils me l'ont enlevé. Sans anesthésie.
Ah.
Voilà, quoi. Donc, je te laisse imaginer la suite, quoi. Hein. Voilà, il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre?
Ça, c'est de la maltraitance, on est d'accord, c'est pas de la torture, quand même.
C'est clair,
on va pas dire ça.
Je veux dire, ça peut pas être autre chose. Je veux dire, il y avait a priori aucun risque à ce qu'ils m'hospitalisent d'urgence, qu'ils m'endorment, qu'ils enlèvent ça calmement, voilà quoi, tu vois.
Et comment ça se fait, tu vois, Arun, que ce soit autant pour tout le monde, en fait, quoi, de souffrir comme ça quand tu vas à l'hôpital, alors que d'habitude, c'est pour aller mieux, quoi. Tu vois, ou qu'ils viennent au centre et que c'est de pire en pire, quoi. Tu vois, pourquoi est-ce que t'as des maltraitances comme ça tout le temps, que ce soit, voilà, ordinaire ou vraiment pervers, c'est vraiment sadique, parce qu'il y en a, comme dans toutes les professions, tu vas me dire. Mais voilà, quoi. Pourquoi est-ce que cette institution-là, si respectable, est autant voilà, malsaine et...
Mais moi, je crois que c'est simple, hein. On voit le corps, on voit plus la personne, quoi.
On voit la pathologie, moi, je dirais, ou le handicap, tu vois.
Voilà.
Mais t'existes plus en tant que personne, quoi. En tant
t'es juste un dossier, quoi, tu vois. T'es juste une pièce mécanique. Enfin bon, en plus, je vais te dire, pour l'orthopédie, c'est vraiment criant, quoi, tu vois. T'es juste une pièce mécanique, hein. Tu peux un truc de rechange, quoi, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, que ce soit, si tu veux, que ce soit un gamin, un adulte ou un vieillard, moi, je crois que, vraiment, il y a ce truc-là, quoi, ce côté où t'es un dossier, t'es une partie du corps, une affection, une maladie, qu'il faut traiter de manière séparée de la personne dans son ensemble, quoi.
C'est ça, parce que si t'as un traitement, par exemple, et tu dis, il me va pas du tout ce traitement-là, et t'as le médecin qui te dit, ouais, mais il y a que ça, faut continuer quand même comme ça. Donc, tu souffres encore, machin, les effets secondaires, tout ça, mais c'est pas grave. Alors, à un moment donné, tu te dis, mais c'est pas possible, il a des actions chez les laboratoires bidules. Et en fait, tu vois que ça existe quand même, hein. Il y a une loi, on en avait parlé justement dans une ancienne émission avec Michel Bonjour, qu'ils n'ont pas le droit de recevoir des cadeaux de la part des laboratoires pharmaceutiques, alors qu'en fait, ça continue quand même, hein.
Oui, ça continue quand même. Et puis, moi, je crois qu'on est vraiment dans une structure, qui a des objectifs, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire qu'un médecin, il a un objectif. Son objectif, c'est de guérir. Tu vois, il a sa lubie, c'est guérir, c'est très bien. Au départ, c'est louable, pas de problème. Mais quand ça devient juste un objectif quantifié, chiffré, et que à partir de là, on se permet d'avoir des pratiques qui sont complètement déshumanisées, bah oui, là, la maltraitance, elle existe, puisque de toute façon, tu tiens plus compte de la personne que tu as en face, quoi. Et c'est d'autant plus facile lorsque la personne est isolée de tout un contexte familial, quoi.
C'est ça.
Il y a un terme qui dépasse un peu le terme de maltraitance, mais il y a un concept de médecine marionnettiste qui a été employé par Michel Bounan, qui est homéopathe, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le temps du sida. Et c'est une réflexion théorique sur le rôle de la médecine dans le monde dans la société telle que l'on la vit. Et voilà, c'est assez intéressant d'aller lire ça, quoi.
Il y a le temps du sida, ouais, puis la vie innommable aussi.
D'accord.
C'est super bien si les auditrices et auditeurs sont intéressés par ça.
Donc, dans ce bouquin, on voit que, en fait, la société, elle produit les maladies, elle produit la façon dont on va les traiter ou ne pas les traiter. Et voilà, il y a une très grande cohérence dans tout ça, quoi.
Ça, c'est certain. Hein, Ça c'est évident. Hein. Enfin, moi je suis tout à fait persuadé que ce qui m'est arrivé, bon, effectivement, il y a un facteur hasard, mais enfin lorsque j'étais dans le placenta, ma mère était femme de ménage, elle travaillait avec des produits, elle n'était pas nécessairement protégée, elle travaillait dans des positions à la con. Où probablement le sang qui circulait en moi n'a probablement pas alimenté ma jambe, et voilà, c'est comme ça que c'est parce qu'il y a une déficience en alimentation du sang que je me suis retrouvé avec une jambe plus courte que l'autre. Mais moi, je suis persuadé qu'effectivement, hein, nombre de maladies, nombre de handicaps, sont causées, sont des faits sociaux, hein, ça c'est évident. Hein. Et puis les traitements ou non-traitements, et ben voilà quoi, ils dépendent du milieu dans lequel tu es quoi. Mmh. Et effectivement, tu vas être mieux traité si t'es dans un hôpital. Enfin, si tu viens d'une famille qui a les moyens d'imposer ses décisions et ses choix, si t'es d'une famille où tu vis totalement et complètement dans le respect et la crainte de l'uniforme ou de la blouse, quoi, ça c'est ou de la fonction, tu vois, que ce soit. D'ailleurs, voilà quoi. Hein,
c'est cher hein, d'être malade, Haroun.
Ah, moi, je suis fier d'être malade.
Non, cher. Je dis, c'est cher d'être malade. Ça ramène énormément de fric à beaucoup de monde. Mais si on n'a pas beaucoup de fric pour se soigner, c'est assez difficile de se soigner. Justement, quoi. C'est une évidence, mais.
Mais c'est évident. Et tu vois, lorsque Romain parlait de médecins marionnettistes.
Oui.
Mais on est vraiment en plein dedans. Ma famille, si tu veux, d'une certaine manière, a été manipulée par la médecine.
Mais on se fait manipuler par eux parce que c'est notre seule chance entre guillemets de guérison ou d'amélioration, alors qu'on t'explique bien qu'en fait il y aura pas de guérison ou de machin et tout, et que justement par rapport à la médecine marionnettiste, c'est un peu ben si je suis plus avec eux, si je suis plus dans ce cadre-là, si je coupe mes fils moi, pour plus qu'on me manipule comme ça, je vais me casser la gueule. Tu vois, mais après quand tu fais 10 ans de chimio, d'interféron, de d'IRM à répétition où on t'injecte dans du gadolinium, donc c'est pas super bon pour la santé non plus. Et puis au bout d'un moment, tu te dis non, j'en ai marre d'être ce laboratoire là. J'en ai marre qu'ils s'amusent avec moi. T'as vraiment l'impression d'être un peu le jouet comme ça, puisque t'existes plus. Donc c'est
c'est clair quoi, tu veux plus passer par ces trucs là et si tu ne veux plus y passer, eh ben c'est clair, c'est soit t'es encore en milieu hospitalier ou en centre et on te casse, ou soit on te donne pas les informations alternatives pour que tu puisses passer à autre chose et tu crèves dans ton coin. C'est pas de la maltraitance, c'est pas de la violence, qu'est-ce que c'est?
Ouais, justement, le terme de maltraitance, est-ce qu'il est pas, enfin c'est un terme institutionnel, il y a des rapports des institutions médicales là-dessus quoi. Mais est-ce qu'il n'est pas limité comme terme? Est-ce que voilà, le problème, il est plus vaste que simplement la formation des blouses blanches. Voilà, c'est quelque chose de plus global sur la façon dont la médecine elle prend possession des corps et.
Ça c'est clair quoi, parce que effectivement, là depuis le temps qu'on parle de l'émission, j'ai un petit peu à peine préparé le truc et effectivement. Le terme maltraitance, lorsque tu fais une simple recherche Google sur le mot maltraitance, eh ben ça va être effectivement des rapports institutionnels qui vont définir le terme et qui vont relater ce que c'est. Et pire que ça, lorsque tu t'intéresses au rapport sénatorial qui a été fait en 2003, c'est pas les malades qui sont écoutés. Hein, c'est les commissions. Oui, ou alors, au mieux, j'avoue que j'ai pas non plus tout à fait tout épluché, mais il y a quand même. Ou alors, ça va être quoi? Ça va être les représentants des personnes handicapées.
Pardon.
Voilà quoi. C'est. Je veux dire, on reste vraiment entre gens de confiance, tu vois.
Ouais. Entre de la santé quand même.
Voilà, entre les détenteurs d'une certaine vérité, quoi.
Voilà. et t'es obligé de la suivre, celle-là, puisque c'est eux qui la détiennent. Toi, t'as pas fait d'études de médecine, t'es pas médecin. Toi, t'es malade. Ça se passe dans ton corps à toi, mais c'est quelqu'un qui a fait des études là-dessus, qui sait mieux que toi, en fin de compte.
Tout à fait.
C'est tout à fait logique, enfin.
Tout à fait. Ça s'appelle de la dépossession de sa propre vie et de son propre corps, quoi.
Ouais. Tout à fait.
Donc, voilà, il y a... Enfin, après... Après, ces histoires-là, mais justement, c'est complètement pipé, quoi. Mm. C'est complètement pipé parce qu'on tient, on tient absolument pas compte des personnes qui sont là-dedans. Elles sont en situation d'infériorité, donc on peut parler sur leur dos, il y a pas de problème.
Y a pas
quoi.
De souci. Ouais. Puis alors, surtout si elles ont des problèmes pour communiquer aussi ou pour tout ça, ça arrange bien tout le monde aussi, quoi.
Bien sûr. Et puis en plus de ça, je veux dire, il y a une capacité de résistance face à cette maltraitance qui est minime, parce que justement l'institution, de manière consciente ou inconsciente, joue avec ces mécanismes-là. Mmh. Elle individualise les personnes qui sont dans le milieu hospitalier. Déjà, ne serait-ce que par le fait que lorsque tu te retrouves en hosto, tu te retrouves pour, à la base, ton handicap, ta maladie, ton truc, tu vois.
C'est pas,
même si tu fais partie d'une catégorie de malade, etc., c'est quand même avant tout une chose qui te concerne, quoi. Mm. Donc déjà, tu es quand même déjà bien individualisé dans ce truc-là, quoi. Mais en plus de ça, lorsque tu rentres dans ces trucs-là de relations qu'il y a entre malades ou entre personnel ou entre handicapés et personnel, là on rentre aussi dans d'autres schémas, quoi. Ouais. On va rentrer dans de la domination, dans de l'influence, dans du favoritisme, dans des machins comme ça, quoi. Et là tu te retrouves effectivement soit tu es complètement individualisé et tu rentres à fond dans ce jeu-là, ou soit tu as la capacité de t'organiser et tu résistes face à ça. Moi, je sais que une fois, lorsque j'étais hospitalisé, une fois, on a réussi à s'organiser. Bon, c'est pas grand-chose, hein. Je veux dire, c'est vraiment rien du tout. On était ados, on allait tous les jours aux activités avec les animateurs, qui par ailleurs étaient sympas. Enfin, ils avaient aussi leur rôle, hein, d'être sympas.
Oui.
Y avait un truc qui déconnait, quoi. C'est que ils faisaient du favoritisme vis-à-vis d'un mec qui abusait de sa situation. Je veux dire, effectivement, nous on n'était pas gentils, mais lui abusait de sa situation. Et à un moment, on a dit, voilà, quoi, on s'est dit, mais merde, quoi, il nous fait vraiment chier, on lui en a parlé, tout ça, et c'était plus possible, quoi. On n'allait quand même pas se mettre à le ligoter sur son pieu pour dire, maintenant, tu te calmes, quoi.
Foutre le feu et tout, non, c'est pas possible.
Voilà, c'était mal. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réunis, et on a dit, eh ben, stop, on fait la grève des activités, quoi.
Ouais.
Tu vois? Et là, les animateurs, ils se sont retrouvés comme des cons, quoi, parce que finalement, ils n'avaient plus personne, quoi.
Ils justifiaient plus leur salaire, en plus. Mais tu vois, déjà, en général, si tu passes un petit séjour, enfin, un petit séjour de quelques jours dans un hôpital, les gens sont pas hyper contents parce que ça se passe quand même mal, même si ça va être pas grand-chose, entre guillemets, tu vois. Mais... Et donc, évidemment, quand on y va souvent, après, on peut voir toutes ces choses-là. Il y a un centre de rééducation aussi, tu vois, mais c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication dehors de ces lieux fermés-là. Mmh. Ouais, donc,
tout à fait. Et puis, il y a aussi un truc, hein, il faut le dire, quoi. Je veux dire, on est tellement dans un tel schéma de construction complètement perverse par rapport au handicap que le malade ou le handicapé, il va minimiser ce qui lui arrive, quoi.
Ouais.
c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même assez rare de voir des, enfin moi c'est ce qui m'est, c'est ce que j'ai pu constater, c'est quand même assez rare de voir d'avoir vu des gamins qui se plaignent de leur situation, quoi.
Ouais.
Il y a toujours un truc, tu vois, toujours, ben, relatif aussi à cette image, proprement définie du handicapé courageux, quoi, je veux dire.
Ouais,
et ça, c'est une vraie merde qu'il faut absolument buter, quoi, tu vois.
Tu peux continuer à morfler et à machin, t'es super courageux, c'est vachement...
Voilà, marrant. T'es super courageux. Tu peux te retrouver à faire de la kiné, à être dans une cage à poules, entouré de poulies, à être, ben voilà, quoi, à être une marionnette
ah
avec
oui,
des
là,
poulies.
Voilà, vraiment.
Ben, tu peux en baver, tu peux vraiment avoir mal, mais tu sais que, ben voilà... t'es là pour ça, t'es là pour guérir, t'es là pour
voilà,
sortir,
c'est ça.
T'es là pour machin.
Alors tu vas faire ça, mon Dieu, c'est pour t'aider qu'on fait ça. T'as mal, mais c'est normal, vas-y, continue, morfle.
Voilà, et la perversité, c'est que aussi tu participes à ce truc-là, quoi.
Ouais.
Donc justement, une des clés pour, par rapport à construire des résistances face au pouvoir médical, c'est, ça peut être déjà de changer le... le regard sur la maladie et le donner enfin les idées reçues sur comment on intègre en fait qu'on est malade, qu'on est en position de faiblesse, qu'on doit en baver, etc., quoi.
On n'est pas en position de faiblesse en étant malade, faut se retirer de la tête de ça, tu vois.
C'est non mais c'est sûr que de toute façon moi je pense sincèrement que la question du handicap et une question d'éducation, quoi.
Ouais.
Je veux dire, je pense pas que c'est, je pense pas, voilà quoi, ça passera pas par des cours d'éducation civique, hein, ça c'est sûr. C'est pas comme ça qu'on va apprendre, qu'on va, et c'est pas un grand coup de semaine médiatique que la société va prendre conscience de ce que c'est que le handicap, surtout.
La semaine pour l'emploi, en plus.
Oui, la semaine pour l'emploi, magnifique. Non, mais c'est que vraiment, déjà, je crois qu'on en est arrivé à un tel niveau de déconstruction de nos vies et de dépossession de nos vies qu'on n'est même plus capable de se rendre compte que la vie, elle n'est pas faite de performance, quoi, elle n'est pas faite de ça, mais elle est faite aussi d'accidents au quotidien, de trucs, de dangers, de machins, hein, je veux dire... Effectivement, on est dans des apparts chauffés, on a la douche tous les matins, c'est super, quoi, génial, quoi.
Mais t'as le truc, ça n'arrive pas qu'aux autres, ou ça n'arrive qu'aux autres aussi, tu vois, cette connerie-là aussi.
Exactement, exactement, ça n'arrive qu'aux autres, ouais, tu vois, ça c'est, alors que, bah non, le handicap, ça peut nous arriver à partir de n'importe quel moment, tu vois, c'est...
Mais tu vois, moi, quand j'ai appris, j'ai été malade, donc déjà, le neurologue m'a, a eu du mal à me l'annoncer, il me l'a pas dit le nom de la maladie, hein, donc comme ça, c'était plus clair. Et, donc, quand j'ai su, donc, que j'étais atteinte de sclérose en plaques, n'est-ce pas, quand j'ai appris ça, au début, j'y croyais pas, et après, ça a été le pourquoi moi. Et au bout d'un moment, on se dit, bah ouais, mais pourquoi pas toi, en fait? Pourquoi toi, tu serais pas malade? Pourquoi toi, tu aurais pas un handicap? Pourquoi est-ce que ça serait les autres et pourquoi ça serait pas toi? Voilà, tu vois, mais pour avancer aussi dans ce sens-là, quoi.
Mm-hmm.
Puis en me disant que oui, maintenant, comme c'est comme ça, et ben justement, pour résister à plein d'oppressions, à plein de saloperies de ce monde et tout ça, machin, ben je peux plus, moi. Ouais, parce que ben tu vas pas faire la révolution tu vois en étant malade, mais tu vois des bêtises comme ça, quoi.
Mais d'ailleurs c'est clair que il y a, tu vois, cette éducation, moi je pense que elle doit vraiment aller même elle doit aller aussi du côté ben voilà quoi, du jusque dans le bord dans lequel nous on se situe, quoi, c'est-à-dire le côté anarchiste, quoi, de la société, où on veut justement déconstruire tous ces rapports qui nous ont été imposés, quoi.
Ouais.
Tu vois, et effectivement des incompréhensions qui enfin je veux dire, faut arrêter de se leurrer, quoi. On est tous bouffés par nos constructions sociales, quoi.
Ouais,
on a beau être des je veux dire, on a beau être des putains de militants ou pas d'ailleurs, non, C'est pas vrai, faut arrêter de se leurrer, quoi.
Se leurrer avec ça, c'est clair.
T'es peut-être super militant, super ouvert à la cause des animaux, à la cause des femmes, à la cause de tout ça. N'empêche que.
J'aime bien le lien entre les animaux et les femmes, Haroun. Mais on va te voir ça. Hein? Non mais je plaisante. Et alors. Vas-y, voilà. Dis-nous en conclusion, parce que là, on va plus avoir de temps, malheureusement.
Mais je veux dire, la violence même, telle qu'elle est, c'est que on peut pas se mettre à la place des autres, quoi. Hein?
Ouais.
On peut pas discuter à la place des autres, quoi. C'est aussi à nous emparer de nos luttes, quoi, tu vois. Mm. C'est aussi ça, quoi.
Mais c'est ça
arrêter,
qui est dur aussi,
de
ouais.
croire que tu vas pouvoir lutter pour la libération des handicapés. Et d'ailleurs, tu sais... Franchement, moi aussi, hein, je suis dedans, hein, tu vois,
ouais.
Je suis bien aussi dans ces belles utopies-là, quoi, tu vois, bon, voilà, quoi, c'est aussi tout un truc, faut vraiment, comme je disais à un copain, c'est comme des oignons, quoi, faut enlever toutes les couches de l'oignon pour arriver jusqu'au cœur.
Juste au cœur, ouais. Ça, c'est très joli, Haroun. Bah, merci beaucoup pour cette émission.
Merci.
On en refera d'autres sur le même thème.
Oh,
ou des thèmes très proches, quoi.
C'est pas fini. Bon, bah, bonne soirée. Et puis, bon week-end à tout le monde qui nous écoute. Et à dans 15 jours.
Merci, au revoir.
Aujourd'hui c'est dimanche et Jean-Louis est content. C'est son anniversaire, il vient d'avoir 16 ans. Son père est fier de lui, c'est un homme à présent. Il peut donc l'emmener
à la chasse
aux faisans. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il va falloir prier pour guérir la douceur. Atteinte de mongolisme jusqu'au plus haut degré, elle va au catéchisme, mais fait peur au curé. Aujourd'hui c'est dimanche, un grand jour pour Jean-Louis. Son père lui a offert un merveilleux fusil. Dans le jardin pour buter un canard, il y trouve de Brigitte faisant de la balançoire. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il va falloir prier pour la pizza. Abattu par Jean-Louis de trois ballons vainqueurs.
Tic-pam, tic-pam, tic-clic. Pam.
Pas mal pour un début.
Affirma le